bien, la valeur.
On va peut-être demander aux associations de présenter un peu.
Donc le CADA, déjà le sigle.
Bonjour, donc je suis Gisela Maratier, je travaille au CADA de Dax. Donc le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Jean-François Oliquet.
Bonjour. Je suis le représentant d'une jeune association sur le territoire du Grand Dax. Elle s'appelle Une École, Un Toit, Des Papiers.
Il y a Sœur Jacqueline aussi, qui est la pasteur des migrants. Et Monseigneur Souchu. Voilà, donc on va passer à la seconde étape. Donc on va procéder comme nous le faisons d'ordinaire pour laisser la discussion. C'est dans un premier temps, il y a un cercle, les micros de micro qui vont vous rejoindre où vous êtes. C'est de réagir sur le film. S'il y a des images qui nous ont touchés, des paroles, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme... Comment on réagit par rapport à ce film ? Qu'est-ce que ça évoque pour nous, les questions ?
Moi, ce qui m'a énormément touché, c'est les premières images où, de manière très simple, on voit deux parties qui se jettent des pierres, qui se battent, qui s'affrontent et qui sont juste des hommes les uns contre les autres. Et ensuite, une phrase, quand le père est arrêté, et le juge ou la préfecture qui reproche à son père que c'est lui qui a déclenché cette situation. Ce caractère très fort de jugement et de condamnation qu'on peut avoir, alors en tout cas je vais parler pour moi, sur juger les autres, les actions et tout ce qu'on peut soi-disant interpréter des autres. Voilà, ça m'a vraiment énormément touché, parce que du coup, on fait ça sans avoir connaissance de ce que celui qui est en face de nous a pu subir. Et en fait, le père, il donnait sa vie à son fils, en faisant tout ce qu'il pouvait.
La scène où la jeune fille met les mains sur les yeux de Fahim, elle lui ouvre les yeux sur la mère.
C'est vrai qu'on suit des personnes qui sont en demande de papier, mais on ne pense pas que les traducteurs peuvent être aussi faux que ça. C'est effarant, mais ça se comprend, mais bon, on oublie ça.
Personnellement, ce que j'ai bien aimé, c'est la dernière partie du film, lorsque Isabelle Nanty s'adresse par intermédiaire d'un média, Premier ministre, et qu'il y a une réaction à ce niveau qui permet de trouver une solution humaine à un problème qui n'est pas toujours facile à traiter, puisqu'il y a des règles, mais il y a toujours ce côté humain qui finit par se réaliser. Et ça, il faut s'en remercier.
Comme quoi, il ne faut jamais désespérer et oser l'impossible.
Le moment qui m'a paru personnellement le plus émouvant, c'est quand il est dans le car au début du film et qu'il est quelque part arraché à sa mère et qu'il va vers un inconnu qui le fait déjà souffrir. Et grâce à son courage, il va devenir quelqu'un d'autre, en fait. Mais ce moment-là, je crois qu'il reste définitivement ancré. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est la dernière phrase. C'est « Est-ce que la France est le pays des droits de l'homme ?» ou de la déclaration ou des droits. Et c'est vrai qu'on devrait pouvoir se poser la question de temps en temps.
Bonsoir. Deux images opposées. Depardieu qui serre la main à son ancien adversaire, alors que le jeune refuse de serrer la main à Fahim.
Alors moi j'ai été très touchée par la solidarité des enfants. Voilà, ils s'entraident et ils veulent être ensemble.
Rien n'est simpliste dans ce film, et ce qui me frappe, c'est que il n'y a pas ceux qui aident et puis ceux qui sont aidés. L'enfant, il va guérir un peu cet homme qui est très intéressé aussi, qui veut avoir un champion dans son école. Et à travers ses questions, son innocence, il va être à l'origine d'une espèce de guérison aussi intérieure chez cet homme, avec ses questions profondes qui réveillent son passé, ses blessures. Voilà, j'ai bien aimé cet échange.
Cette amitié entre enfants est très prenante, mais ce qui est très dur pour moi, c'est cette image quand la photo de la maman est découpée et que l'enfant se retrouve sans la photo de sa maman. C'est l'administration, le côté administratif, qui dépasse tout sentiment.
Par rapport à la remarque précédente aussi, c'est quand on aide quelqu'un, on s'aide de soi aussi des fois. Hein. En voulant guérir des gens, à les aider, on guérit soi-même. C'est aussi une très bonne leçon de vie.
Le problème de la langue, les enfants en effet apprennent la langue ultra rapidement par rapport à leurs parents. Mais ça pose de très graves problèmes parce que les enfants très jeunes portent, disons, le problème de les difficultés, ils sont trop jeunes. J'ai accompagné à l'école la semaine dernière une petite fille de 8 ans. Il fallait expliquer à la maîtresse, j'accompagnais la maman, il fallait expliquer à la maîtresse qu'elle n'avait pas ses affaires, puisqu'ils avaient quitté l'appartement le 30 octobre, et que la maman voulait que ce soit la petite fille qui traduise. Alors je me suis interposée. J'ai dit non, c'est pas l'enfant qui va parler. C'était trop choquant qu'elle explique la situation dramatique dans laquelle cette famille se retrouve avec une maman enceinte qui doit accoucher un 26 décembre, c'est pas une histoire. Hein. Ils sont sans plus rien. Voilà. Et la maman voulait que la petite fille l'explique à la maîtresse.
Voilà donc des rôles qui sont inversés dans ce genre de situation.
Les premières images du film m'ont complètement bouleversée parce que c'est encore comme ça aujourd'hui. J'ai travaillé avec Médecins du Monde à Dakar. J'ai vu cette misère, j'ai vu les enfants pieds nus, j'ai vu les enfants qui, à 6 ans, pêchaient pour survivre. J'ai vu des enfants tout nus dont personne ne s'occupait. J'ai vu des parents qui, au moment où j'allais reprendre l'avion, voulaient me donner leurs enfants. Et j'ai d'abord été interpellée en disant « Comment peut-on donner son enfant ?» Puis j'ai compris que l'amour qu'ils avaient était plus fort et que si je les avais ramenés, ils avaient la chance de survivre. Donc ce film sur Dakapekwa, enfin ça se tient, montre aussi que Dhaka est encore comme ça aujourd'hui. Et quand nous donnons nos vieux vêtements, quand nous donnons, il faut les donner, parce que c'est envoyé dans ces pays-là, c'est leur permet de travailler et ça leur permet de faire des vêtements. Hein. Des fois, souvent, maintenant, on voit écrit « Made in Bangladesh ». Je voulais porter ce témoignage. Parce que le film est magnifique, c'est sûr, mais c'est encore comme ça aujourd'hui.
Donc peut-être, moi, je peux partager quelque chose sur ce film. Donc moi, je l'ai vu il y a 2 mois et demi avec le réalisateur, donc Pierre-François Martin Laval. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur. Donc c'est un humoriste un peu déjanté. Donc ce n'est pas du tout le style du personnage. Et il était lui-même très très touché par cette histoire. Donc il a été touché par cette histoire. Donc, et il aide toujours l'acteur, donc celui qui joue Fahim. Et il aide toujours aussi le papa, joue le papa qui a trouvé boulot dans la restauration. Et moi, ce qui m'a touché dans ce film, encore une fois, c'est la réalité de la situation. C'est-à-dire que On voit souvent le migrant justement comme uniquement comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un qui a très peu d'éducation, qui a vécu difficilement. Donc là, le papa est pompier. Les échecs, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est assez intellectuel aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où cette dame donne l'aumône et qu'ils vont rendre la pièce directement. Donc ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ce n'est pas du tout, enfin ce n'est pas uniquement l'image du migrant pauvre, sans éducation, et que nous, forcément, nous allons aider. C'est aussi les personnes qui parfois arrivent ici avec un bagage intellectuel qui est quand même assez conséquent, mais qui se retrouvent finalement dans des situations qui sont très compliquées.
Oui. Est-ce qu'il faut être capable de monter à main nue une façade d'immeuble pour sauver un enfant au quatrième étage, ou être champion de France d'échecs ou de quoi que ce soit pour être naturalisé?
Voilà, je vais demander maintenant aux intervenants de venir devant, peut-être ça sera plus facile. Après, il y a une question aussi qu'on peut se poser, parce qu'on le voit, il y a le côté relationnel, personnel, entre une équipe, quelques personnes, et donc Fahim, son papa, Noura, mais aussi tout le côté administratif. Il y a deux mondes qui se rencontrent quelque part, avec deux logiques. Hein. La logique... de la proximité, il y a une personne, donc il y a un visage, une histoire, et ceux qui ont à prendre des responsabilités au niveau de l'État, devant la question qu'on appelle les flux migratoires, et donc on n'a plus une personne, on a des chiffres. Mais en même temps, ce sont des personnes derrière, mais ce sont des réalités. Comment on gère la géopolitique et la relation personnelle? Comment on articule ça? Parce que c'est pas si évident, quelque part. Hein. Voilà. À gérer les... Il me semble, dis-moi, c'est quand même des questions qui sont pas si simples que ça, a priori. Voilà, donc si vous avez des questions, on va les prendre. Mais en même temps, on peut demander déjà comment eux gèrent ce genre de situation. Et mais peut-être Jean-François peut développer un peu ce qu'il a déjà présenté tout à l'heure, un peu, non? Par rapport à l'accueil. Parce que, on en discutait jusque tout à l'heure, c'est il y a des zones grises au niveau de la loi. C'est-à-dire que pour travailler, normalement, il faut avoir des papiers. Pour avoir les papiers, il faut travailler. Si vous embauchez quelqu'un qui est sans papier, vous êtes pénalisable. Mais en même temps, la personne ne peut pas avoir de papier si elle n'est pas embauchée. Voilà. Et en même temps, si on accueille quelqu'un sans papier, bon, tout ça. C'est une zone de grise où l'État ne regarde pas trop, on va dire. Et bon, les gens ne sont pas expulsés systématiquement, donc une petite zone grise que l'association profite. Dont l'association profite, il me semble. Non ?
Bénéficie.
En ce qui concerne l'accès au droit d'asile, je laisserai le représentant du CADA s'exprimer. Lorsqu'on ne peut plus relever du droit d'asile, la législation française actuelle entre-ouvre une porte, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a un code législatif, le CESEDA, qui a été complété par une circulaire qui date de 2012. C'était Manuel Valls à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, qui permet, alors c'est un pouvoir discrétionnaire du préfet, c'est-à-dire que le préfet du département A peut dire oui par rapport à un cas, alors que le préfet du département B, par rapport au même cas, dira non, qui permet donc au préfet de délivrer des titres de séjour à partir d'un certain nombre de critères. Et pour faire bref, les critères principaux que l'on peut retenir, c'est 3 ans de scolarisation des enfants, 5 ans de présence des parents sur le territoire national, une maîtrise du français des parents suffisante et une insertion professionnelle des parents en cours. Et c'est là où l'État n'hésite pas à demander des preuves de cette insertion professionnelle par des bulletins de salaire en bonne et due forme ou un contrat de une promesse d'embauche en bonne et due forme, alors que en théorie, d'autres lois interdisent aux sans-papiers de pouvoir travailler. Il y a ensuite, pour motif humanitaire, lorsque la personne sans papier est dans une santé défaillante qui l'empêcherait de survivre si elle rentrait au pays, quand le pays n'a pas le même niveau de santé que la France, ou lorsqu'il s'agit de femmes en danger, soit dans leur cadre familial ou lorsqu'elles ont été emprises à des réseaux de proxénétisme. C'est quelques cas qui permettent d'être régularisés lorsque l'on n'a pas eu la chance de recevoir l'asile politique ou que l'on ne l'a même pas demandé parce qu'on pensait qu'on, de toute façon, on ne l'aurait pas. Les associations qui font de l'accompagnement ou de l'hébergement vis-à-vis de ces publics-là savent donc que c'est un accompagnement sur le long terme qui peut durer plusieurs années, ce qui rend la chose difficile et ce qui fait qu'il faut avoir les reins solides en termes de bénévoles, de logements ou et de financement. De financements qui ne viennent pas de l'État et qui ne peuvent venir que de la générosité des citoyens des territoires ou d'institutions locales ou de pouvoirs politiques locaux. L'association dont nous inspirons sur Bayonne existe depuis 7 ans. Elle accompagne 15 familles en permanence. Elle a donc 15 logements à mettre à disposition et elle a aidé sur ces 7 ans 20 familles à obtenir des papiers. Nous travaillons depuis 11 mois. Nous accompagnons donc 3 familles. L'une d'entre elles a été régularisée fin juillet grâce aux démarches qu'on a entreprises. Et n'a pas encore son titre de séjour entre les mains parce que les pièces du dossier à réunir, c'est un parcours du combattant. Nous essayons. À Mont-de-Marsan, à la fin de l'été, une association qui ressemble à la nôtre a commencé à travailler et accompagne aussi 3 familles, me semble-t-il. Mais nous n'arrivons pas à accompagner toutes les familles déboutées. Et on sait très bien sur. On n'a pas pu accueillir, nous, au cours des 11 derniers mois, 2 familles qui nous ont demandé si on pouvait les suivre, malheureusement.
Ce que je peux dire avant de vous passer la parole, c'est ce que le film nous a bien montré, me semble-t-il aussi, c'est qu'on peut tous faire quelque chose. Alors, soit au niveau associatif, soit même au niveau personnel. On a donné l'exemple des enfants qui se mobilisent, ou cette dame qui téléphone tout d'un coup à France Inter, et puis finalement ça marche. Voilà. Ça, je trouve que c'est très, très important parce que ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas seulement ceux qui savent ou ceux qui ont des possibilités, mais tous, on est concernés parce que ce n'est pas fini, hein, l'arrivée des migrants à travers le monde. Et donc, si on n'a pas cette attitude habituelle, ça sera encore plus difficile.
Pour répondre à la question de monsieur, par rapport à la demande d'asile, comme a dit quelqu'un très justement tout à l'heure, les demandeurs d'asile ne sont pas forcément des personnes pauvres dans leur pays d'origine. C'est pour ça, quand on parle du flux migratoire, je préférais qu'on parle des flux migratoires, parce que la demande d'asile en est un, et c'est un flux migratoire particulier. C'est que par rapport, elle est liée à la Convention de Genève, et c'est lié à une persécution qu'on subit dans son pays. Donc quand on arrive dans un pays dans lequel on peut demander l'asile, comme la France, on arrive en indiquant une histoire, des souffrances qu'on a vécues dans son pays. Et c'est par rapport à cette souffrance qu'on va être entendu auprès des différentes instances en France pour savoir si on va pouvoir avoir la chance d'être réfugié sur le territoire. Mais donc il n'y a pas besoin forcément de... Comme dans le film ici, bah, c'est une belle histoire évidemment, mais... heureusement que toutes et tous n'ont pas besoin d'être champions de France, d'échecs ou autres pour pouvoir rester sur le territoire. Après, c'est juste pour Par rapport au film, c'est vrai que c'était il y a 7 ans, donc je ne sais pas quelle était la législation à ce moment-là, parce que je ne travaillais pas dans la demande d'asile, mais je me suis noté quelques notes pendant le film. Au niveau du travail, il faut savoir que les demandeurs d'asile n'ont pas droit de travailler sur le territoire pendant leur demande, sauf exception, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sauf exception. Donc là, quand ils parlent de travailler, bien évidemment, c'est du travail qui, normalement, n'est pas légal. Donc je pense que peut-être à l'époque, je pense que c'était la même chose. Ensuite, une chose importante, c'est quand ils disent que le papa va être renvoyé dans son pays d'origine parce qu'il a été débouté du droit d'asile. Quand on n'a pas la demande d'asile, on appelle ça débouté. Et que l'enfant va être placé dans un foyer en France. À ma connaissance, la sauf erreur de ma part, toute la famille est renvoyée dans le pays d'origine. Il n'y a que si le mineur arrive tout seul sur le territoire français qu'il est placé en famille d'accueil ou dans un service de protection de l'enfance. Donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques visions quant au film. Quoi.
Il y a un mot aussi, donc il y a les différents types d'immigration, donc asile politique, donc ensuite l'immigration économique, il peut y avoir la question médicale aussi. Mais quand on est débouté, donc il y a la question de centre de rétention. Vous pouvez dire un petit mot peut-être ?
Donc quand on est débouté du droit d'asile et qu'on est l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, envoie un document indiquant pourquoi la personne n'a pas été reconnue comme réfugiée sur le territoire français. Et à partir de là, il lui indique dans le courrier qu'il a un mois pour quitter le territoire. Et à partir de là, au bout de ce mois, si la personne est toujours sur le territoire français et avec une adresse connue, la préfecture peut envoyer aux personnes une obligation de quitter le territoire français. Et c'est à partir de ce courrier que la personne, si on l'arrête, comme ça arrive dans le film, ou si elle est dans un logement connu, peut être placée en centre de rétention avant retour au pays d'origine. Après, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il faut vraiment être arrêté de manière impromptue, comme là, parce qu'il était sur de la vente illégale, ou alors avoir commis un trouble à l'ordre public pour être placé en centre de rétention.
Donc le centre de rétention, c'est, pour expliquer un peu.
Alors, centre de rétention, c'est un centre de rétention spécifique aux personnes déboutées qui sont. Par contre, j'en ai jamais visité. Hein. Ce que je vous dis, c'est de mes lectures. C'est un centre de préparation au retour et c'est bien sûr un centre fermé où les personnes attendent d'être expulsées vers leur pays d'origine.
Oui, dans le milieu associatif, on n'hésite pas à dire que ce sont des prisons pour migrants. C'est-à-dire, exactement le même style de locaux qu'une prison, avec la différence que les gardiens sont des policiers du ministère de l'Intérieur et non pas des gardiens du ministère de la Justice. Et ce n'est pas obligatoirement plus simple pour ceux qui sont gardés, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport au respect de leurs droits. Il y a quelques associations qui peuvent rentrer dans les centres de rétention administratifs, dont la CIMAD, pour tenter que donc les personnes qui sont retenues aient au moins un respect de leurs droits. Par exemple, il est interdit de mettre en centre de rétention administrative des enfants. Pourtant, de nombreux préfets français n'hésitent pas, lorsque la famille est arrêtée, à y envoyer toute la famille, y compris les enfants. Et s'il n'y a pas les associations ad hoc qui ont le bagage juridique pour faire valoir ces droits-là, le temps que l'affaire court, la famille peut être expulsée, alors que l'enfant n'aurait même jamais dû être placé en centre de rétention administrative. La préfète de Bordeaux, cet été, n'a pas hésité à envoyer au centre de rétention administrative de Toulouse, parce que celui de Bordeaux était rempli des familles avec des enfants de moins de 10 ans. La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour emprisonner des enfants en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Jusqu'au début de l'année 2019, un étranger en situation régulière pouvait être détenu maximum 30 jours en centre de rétention administrative. Au-delà de ce délai, si l'État n'avait pas pu organiser son retour dans le pays d'origine, la personne devait être libérée. La nouvelle loi Asile et Migration, votée l'été dernier, appliquée depuis, enfin, à l'été 2018, appliquée depuis le 1er janvier 2019, a multiplié par 3 ce délai. Il est de 90 jours maintenant.
Donc, il y a peut-être une toute petite exception pour les enfants qui ont le droit de rester. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Leonarda. C'était la jeune Rome qui, du coup, donc très un peu cyniquement, François Hollande avait proposé que la fille puisse rester, mais que les parents rentrent. Alors, j'avais une petite question pour les 3 intervenants, les 3 personnes face à nous sur le film. Ce qu'on voit que le film, mais aussi les différentes situations que beaucoup d'entre vous ont exprimées, on ne peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose. Mais comment faire pour ne pas rester dans le registre de l'émotionnel ?
J'ai 2 heures, c'est ça. C'est un peu délicat de répondre. Je pense que, au niveau du centre d'accueil de demandeurs d'asile, on est tous des professionnels, donc en général, il y a la formation qui nous apprend à prendre du recul sur les situations, que ce soit pour un centre d'accueil de demandeurs d'asile, pour les personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap ou autre. Donc déjà, ça, c'est une première réponse. Et après, chacun va pouvoir avoir ses techniques, entre guillemets. Je ne sais pas si je peux parler de moi, mais en ce qui me concerne, par rapport au parcours du demandeur d'asile, je sais qu'il passe par 2 instances en France, qui sont l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés des apatrides. Et si ils ont une réponse négative, ils peuvent passer à la Cour nationale du droit d'asile, donc pour une deuxième instance. Et j'essaie de me dire que avec 2 instances, on a le maximum de chances de son côté pour avoir la réponse en fonction de son dossier. Et j'essaie de me dire que grâce à ces 2 instances et à la République dans laquelle on est, on a le maximum de réponses qui sont ce qu'elles doivent être. Voilà.
Moi, je crois que c'est comme dans le film, c'est-à-dire que chacun puisse agir en fonction de ce qu'il est et de ses responsabilités. Je prends l'exemple des personnes migrantes que nous avons accueillies au berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a eu plusieurs vagues, si je puis dire. La dernière, c'était l'année dernière, la Croix-Rouge m'avait longuement sollicité parce que je crois, l'an dernier, je ne sais pas cette année, je crois que c'était 52 personnes qui étaient dans la rue la nuit à Dax. Et donc, pour accueillir, il faut évidemment un bâtiment, mais il faut aussi des toilettes, il faut aussi de l'eau, du chauffage, et puis des gens, des bénévoles. Voilà. Et donc, la Croix-Rouge pouvait assumer un certain nombre de choses, mais n'avait pas les locaux. Et donc, il y avait des locaux qui était vide au berceau de Saint-Vincent-de-Paul. On a pu le faire aussi grâce à l'intervention de l'État, c'est-à-dire la sous-préfète. Mais seulement, c'est un hébergement d'urgence. Alors, d'urgence au sens où c'est entre, disons, le 15 octobre et le 15 mars, c'est-à-dire pendant la période hivernale. Mais c'est urgence aussi dans la continuité. C'est-à-dire que la Croix-Rouge, dans le cas présent, en tout cas, elle permet à des personnes qui sont complètement dans la rue et donc complètement désocialisées de se resocialiser un peu, de rencontrer des psychologues, de se faire une santé, tout ça, etc. Mais s'il n'y a plus de sous au 15 mars, s'il n'y a plus de sous au 15 mars, tout ferme. Et donc l'accompagnement et tout le reste. Donc on a réussi, chacun en mettant de son côté, à pousser un petit peu plus, mais ça a quand même fini par fermer. Et puis là, on souhaite rouvrir, seulement on n'est plus dans les normes, parce que les normes ont changé. Alors, avec la sous-préfète, on essaye de faire que ce soit quand même dans les normes. Voilà. Et chacun essaye de faire ce qu'il peut. Et ça, je crois que c'est très porteur. Aussi bien personnellement qu'avec des associations qui, elles, connaissent bien et qui peuvent bien accompagner.
Je suis un peu comme Gisèle, je ne sais pas trop répondre à la question. Mais j'ai l'impression que si l'on ne reste que dans l'émotionnel, on ne peut pas rendre le meilleur service aux gens que l'on aide. Et en ce qui concerne notre association, les associations qui fonctionnent de cette manière-là, l'idée de base, c'est quand même d'agir dans le domaine du droit. C'est-à-dire que dans la législation française, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur la circulaire Valls, c'est inscrit. Et donc, c'est une boussole qui nous guide. Faire que les gens que nous aidons aient accès aux droits auxquels ils ont droit et auxquels seuls ils n'auraient pas droit. Ils n'y auraient pas accès parce qu'ils n'auraient pas les moyens en langue, en appui, en réseau, etc., pour que leurs droits soient reconnus. Ensuite, c'est de travailler en équipe plutôt que de peut-être accueillir chez soi quelqu'un rencontré comme cela. La charge pour l'hébergeur et l'héberger, la charge émotionnelle est effectivement extrêmement lourde. Et une fois qu'on a accueilli quelqu'un seul chez soi et que cela devient difficile, comment passer le relais? Donc travailler en équipe, et c'est ce qu'on fait dans l'association. Nos amis bayonnais sont beaucoup plus structurés que nous. Ils ont des bénévoles qui travaillent dans le domaine psychologique, qui sont des professionnels et qui aident les bénévoles qui accompagnent les familles au quotidien à relire ce qu'ils vivent avec eux de manière à mettre à distance, parce qu'au contraire des travailleurs du CADA, nous n'avons pas eu la formation. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore cela et on espère dans les mois qui viennent des professionnels qui bénévolement nous aideraient à mettre à distance un petit peu, à relire ce qu'on lit pour ne pas se laisser entraîner dans des situations qui pourraient devenir problématiques.
Donc, oui, c'est vrai, il ne faut pas agir dans l'émotionnel. C'est très difficile de faire, de faire face à tous les cas de figure de ceux qui sont déboutés du droit d'asile pour une raison ou pour une autre. Il existe des associations, et par exemple, moi, ici, on est au moins deux dans cette salle, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas vus. Nous sommes à la CIMAD, et depuis 3 jours, nous fêtons les 80 ans de la CIMAD. C'est une association qui a donc une très longue expérience de l'accompagnement des migrants, des demandeurs d'asile, et c'est vrai qu'il y a besoin de beaucoup de bénévoles. Il y a besoin de beaucoup de bénévoles à tout niveau par rapport à la réception des gens qui viennent demander quels sont leurs droits. Même, parce qu'il y a toujours, une fenêtre ouverte. Il y a toujours une possibilité de trouver une... il faut chercher, disons. Par exemple, les jeunes qui ont quitté le CAO du berceau de Saint-Vincent-de-Paul il y a quelques mois... Ça fait plus de temps maintenant, il y en avait au moins 3 qui n'avaient aucune solution devant eux. La CIMAD ne pouvait pas, mais elle a suscité des gens qui se sont organisés parce qu'il fallait qu'ils attendent 1 an. La CIMAD savait qu'il fallait attendre 1 an pour reposer le dossier. Voilà. Donc en ce moment, les gens qui ont fait des accompagnements ont été conseillés par la CIMAD et continuent à accompagner ces 3 jeunes pour qu'ils fassent les recours qu'ils ont à faire. Je voudrais aussi signaler que la CIMAD samedi soir à Mont-de-Marsan, encore son 80e anniversaire. Je vous invite à venir voir, vous allez sur le site de la CIMAD et vous verrez que, en effet, il ne faut pas en rester à l'émotionnel. Il y a des gens qui agissent, il y a plein de possibilités d'action. En particulier, nous, on aurait besoin de bénévoles pour intervenir en milieu carcéral.
Là, vous avez entendu la pub par rapport à ce que vient de dire madame. Après, je n'ai pas dit nous n'étions pas dans l'émotionnel, j'ai dit qu'on devait trouver des techniques, en tout cas, pour passer sinon c'est un métier qu'on ne pouvait pas continuer à faire dans le temps, parce que ça serait trop dur, justement, émotionnellement, à réaliser. Et par rapport à ce que vous dites, là, c'est intéressant, parce que du coup, je pense que... faut bien faire la part des choses entre les associations qui ont
un pouvoir d'agir et qui sont militantes dans l'action, et les centres d'accueil demandeurs d'asile qui sont liés à un contrat avec l'État. Et donc nous, on a des missions très précises, et une fois que les personnes sont déboutées du droit d'asile, nous n'avons pas dans nos missions à réaliser, à trouver des hébergements par la suite ou des solutions pour les personnes. Donc c'est pour ça que les personnes vont vers la CIMAD ou vers OTP par la suite, mais ça peut pas être fait dans le cadre du... c'est pas des refus d'accompagnement, c'est que c'est plus les missions qui nous sont données par l'État par la suite.
Vous avez tout à fait raison, mais la CIMAD par exemple ne fait pas d'hébergement. Mais en ce moment, nous nous renseignons parce que dans le nord des Landes, dans la vallée de la Leyre ou sur Bordeaux, il y a d'autres associations que nous qui s'occupent d'hébergement et qui le font d'une façon très intéressante. Et donc je pense qu'il va y avoir une possibilité d'ouvrir un autre système d'accueil associatif qui s'appellera Hébergeur Solidaire, autant pour des enfants dont la minorité est mise en cause par le conseil départemental. En ce moment-là, on en a 3 qui seraient dans la rue, si des bénévoles s'en occupaient pas. Mais nous, on est en train de chercher de susciter qu'une association comme celle de la Leyre s'organise chez nous pour que ça se fasse dans le cadre associatif. Et là, il y a besoin de monde. Il faut savoir que sur le secteur de Pouillon et d'Amou, 12 familles se partagent depuis 6 mois un jeune qui a fait un recours auprès du juge des enfants. Il faudrait que ce soit structuré.
Je vais revenir sur la question, du moins le point que je soulignais tout à l'heure, c'est que il y a la logique, il y a deux logiques, la logique individuelle et la logique au niveau de l'État et au niveau géopolitique. Mais c'est important d'avoir ça en tête, parce que, quand on disait, c'est pas l'émotionnel, mais c'est comment on peut agir aussi sur les causes. Parce que quand on a quelqu'un qui est ici pour une question d'asile ou d'immigration économique ou autre, c'est parce qu'une cause à l'origine qui l'a fait partir. On quitte pas son pays comme ça, parce que ça fait plaisir. On a toujours ses racines. Donc si on part, c'est parce qu'on est forcé d'une manière ou d'une autre, soit par l'illusion, soit par un contexte économique, politique. Des fois, c'est de l'illusion, hein, mais des fois, c'est un contexte politique, économique. Mais comment on travaille aussi à résoudre les causes des problèmes? C'est ça aussi. Donc il y a d'autres associations, comme le CCFD ou autre, il y a quantité d'autres associations, qui travaillent sur les causes des problèmes. Parce que si on résout les problèmes de développement, d'injustice, de dictature, etc., on n'aura pas aussi le flux migratoire. Voilà. Donc il y a une manière d'agir au niveau de l'immigration, c'est d'agir sur ce qui est à la source. Et ça, ce n'est pas inintéressant aussi. Hein. À travers des associations qui existent déjà, ou à travers des partenariats, peu importe. Il y a des manières aussi de changer le cours de l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Donc essayons aussi d'agir concrètement à tous les niveaux. Niveau personnel, mais voyons plus loin pour résoudre aussi les problèmes qui sont à l'origine. Oui.
Je voudrais juste dire que l'administration, les fonctionnaires qui traitent ou qui s'occupent de l'immigration, ben, parfois tout le monde ne rentre pas dans le moule et une manière de tourner la tête ou de pas traiter le cas par exemple du travailleur en situation irrégulière et qui travaille sans papier et qui n'est pas déclaré évidemment puisqu'il ne peut pas.
Peut-être une toute petite précision. Je vous passe la parole après, madame, pour parler de l'État. Ce qu'on a souvent la tentation de critiquer très très souvent l'État. Donc, Mgr Sauchu le précisait, donc la sous-préfète a quand même participé à une action, mais l'État parfois agit bien. Enfin, il y a de bonnes choses qui sont faites par l'État et c'est aussi important de le reconnaître, me semble-t-il.
Même dans le film, nous voyons dans le film, la dame qui s'occupe de Noura, donc le papa de Fahim, elle n'est pas hostile. Elle essaie avec les moyens qu'elle a aussi. Hein. Donc, dans l'administration, il y a des gens qui sont peut-être fermés, il y a des gens qui sont aussi, qui essaient de faire le maximum, mais c'est les outils qu'ils ont.
Que fait Caritas au niveau de ces migrants? Parce que bon, Caritas intervient beaucoup au niveau du territoire par rapport à des gens qui sont en difficulté. J'aimerais savoir ce qu'ils font.
Je n'ai pas l'ensemble de la réponse, mais déjà, je peux vous dire qu'ils interviennent au CADA en tant que bénévoles pour donner des cours de français. Donc, soit directement à domicile ou au CADA, au sein de nos bureaux, dans des salles adaptées. Il faut également ce qu'on appelle les ateliers sociolinguistiques, c'est-à-dire qu'ils les emmènent directement en ville pour l'apprentissage du français.
Et puis c'est chaque branche du secours catholique dépendant du département qui décide du coup ce qu'elle fait.
Donc avec le secours catholique, il faut avoir en tête ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que l'ensemble travaille en équipe. Parce qu'il y a la question du logement, la question du papier, la question psychologique, la question de l'apprentissage du français, la question de quantité de choses. Donc c'est tout un ensemble, c'est un réseau d'associations qui se mettent ensemble pour travailler. Donc le secours catholique travaille dans son secteur à lui. Donc elle a toute sa place aussi, cette association.
Excusez-moi, une question très pratique. Un migrant est dans un camion espagnol et descend à l'aire de repos de Rennes-Sahari. Comment il fait pour trouver le CADA?
Alors les personnes ne peuvent pas venir directement au CADA parce qu'elles sont demandeurs d'asile. Elles doivent d'abord passer au sein de chaque préfecture. Il y a la préfecture et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est après être passé dans ce bureau qu'on appelle le guichet unique de demandeurs d'asile qui peuvent être orientés au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ils ne peuvent pas arriver directement au CADA. Donc c'est en rencontrant quelqu'un qu'ils connaissent déjà ou en allant dans des associations comme la CIMAD qui va les orienter pour qu'ils puissent aller faire leur demande d'asile dans la préfecture concernée et ensuite être orienté dans les centres d'accueil. Mais il faut savoir qu'il y a je crois qu'il y a 100 000 places de demande d'asile en France pour 120 000 demandeurs d'asile. Donc des fois, le temps que d'avoir une place, ça peut être un petit peu long.
Ça m'est arrivé une fois à l'aire d'autoroute et c'était encore dans le département des Landes. J'ai emmené la personne au secours catholique le plus proche. Et puis après, des bénévoles, ils ont fait ce que...
Le principe du secours catholique, c'est un accueil inconditionnel. Donc, à l'accueil de Dax, il y a des gens qui sont dans la rue, des migrants, qui viennent au secours catholique. C'est la première action du secours catholique. Deuxième action aussi, c'est aider les associations. Associations, mais nous sommes aussi, quand on aide l'association, on personnalise un peu l'accueil, c'est-à-dire on veut rencontrer les familles qu'on veut aider, donc on les aide financièrement, mais aussi on les aide psychiquement, et parce que quand vous êtes migrant, s'intégrer dans une ville comme Dax, c'est compliqué. Donc aussi on porte notre action auprès des associations, et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe et c'est une co-accueil de ces familles migrantes.
Donc le dernier mot, Monseigneur.
C'est pour remercier les organisateurs de nous avoir fait d'abord montrer un beau film et puis de nous renvoyer chacun là où on en est, voilà, avec les autres.
Merci au cinéma de Dax aussi. Très bonne soirée.